Bien. Je vais donc reprendre l'exposé sur la question de la variation et de la réécriture. À partir d'un exemplier qui circule, là normalement vous devez tous avoir un exemplaire. Je m'étais arrêté là à ce moment effectivement de mon exposé sur l'influence effectivement des pratiques de genèse, de la génétique textuelle dans la mise en place d'une didactique de l'écriture au collège et au lycée s'agissant de l'écriture d'invention. Bien, alors oui, je disais justement donc que la grande différence d'une certaine façon, enfin moi dans ma pratique d'enseignant à la fois et puis de chercheur du point de vue de l'écriture, c'est que j'emprunte effectivement la notion de processus à la génétique textuelle, hein, effectivement, d'imaginer que l'écriture s'élabore effectivement dans une durée. Mais avec cette différence notable, c'est que j'envisage pas d'une certaine façon la pratique de la réécriture du côté du brouillon, mais du côté d'une écriture que je dis post-éditoriale d'une certaine façon. Je m'explique. C'est que d'une certaine façon, le premier écrit de l'élève est celui avec lequel on va partir et on va travailler, c'est-à-dire que j'estime que l'élève a généralement, enfin on le voit au collège et au lycée, c'est très net, une pratique assez difficile et délicate du brouillon, hein, et qu'il juge effectivement que son écrit, le premier, est le bon et qu'il ne juge pas nécessaire effectivement de retravailler son écrit. Et donc le principe, c'est effectivement de se situer dans un premier écrit, et c'est ce premier écrit-là qui est déjà lisible, hein, et d'une certaine façon qu'on pourrait presque évaluer, qui va faire l'objet ensuite d'une réécriture. Donc je ne me place pas dans une pratique de la réécriture qui multiplierait les brouillons pour arriver à un texte achevé, unique, mais au contraire dans une démultiplication, si vous voulez, de plusieurs textes qui chacun est lisible et recevable. Hein, donc effectivement, il y a cette nuance qui me semble importante. Ceci pour dire justement que dans cette perspective-là, je me place dans une conception de la réécriture qui justement ne travaille pas sur une progressive mise au net, hein, d'accord, qui s'effectuerait dans le cadre du brouillon pour arriver à un texte dit idéal. Et deuxième chose, c'est que je ne me situe pas non plus dans une pratique de la réécriture spontanément qui se situerait du côté de la notion d'amélioration ou d'une perspective de la réduction de l'erreur. Hein, ce qui là aussi souvent est d'une certaine façon la fonction que l'on attribue à la réécriture. Et donc, pas nécessairement du côté de l'amélioration des écrits, de la notion d'amélioration, et pas nécessairement non plus du côté de la réduction de l'erreur. Deuxième point, c'est aussi une mise à distance d'une conception, en tout cas d'une réécriture qui serait individualisée. Je m'explique. C'est ne pas faire que la réécriture soit, comment dirais-je, spécifique à chacun des élèves, c'est-à-dire en fonction des lectures que l'enseignant ferait d'un texte d'élève, il lui dirait voilà, tu vas réécrire parce qu'il faut que tu améliores tel aspect de ton texte, et que donc effectivement on serait dans ce cas-là dans une individualisation de la pratique de la réécriture en fonction effectivement des erreurs, des manques, des déficits que l'on constaterait dans les textes de chacun des élèves. Là, à l'inverse, je me situe du côté d'une réécriture qui est valable pour tous. On va le regarder à partir de cette première page que vous avez sous les yeux, et on va prendre ça comme exemple. C'est sur les réécritures de la fable. Alors, réécriture de la fable, genre travailler au lycée, travailler au collège, travailler à l'école primaire. Alors, voici quatre textes d'un même élève qui écrit le chien, la vache et le sanglier. Donc, je vais vous inviter à lire ce premier texte, et je vais vous expliquer justement d'une certaine façon comment on va travailler sur cette variation dans le genre. Hein, donc, cette notion, effectivement, je parlais de notion de stéréotypie, de genre, de repérer des régularités formelles du point de vue de la fable, mais comment effectivement amener l'élève à circuler dans le genre, d'une certaine façon, voir qu'on va travailler sur cette variation des formes de la fable. Donc, le premier texte, ici, de cet élève, est produit en ouverture de séquence, si vous voulez, en ouverture du projet, c'est-à-dire que l'enseignant propose, voilà, vous allez écrire une fable, à partir de ce matériau, c'est-à-dire une morale que vous allez choisir dans un ensemble de morales, et puis des animaux avec leurs équivalents symboliques, hein, que j'avais retiré chez Jacques Lacarrière, justement, avait fait une traduction des fables d'Ésope, et il proposait les équivalences symboliques pour l'ensemble des animaux. Hein. Donc il y avait effectivement ce premier travail proposé aux élèves, sans d'autres modèles, justement, que ce qu'ils connaissaient, eux, comme bagage de la fable. Donc, proposition d'écriture, si vous voulez, en ouverture d'un projet, vous écrivez une fable, voici, vous choisissez une morale, vous choisissez des animaux, et vous disposez d'une heure, sans qu'aucune réflexion ou aucune proposition n'ait été faite, si vous voulez, du point de vue de qu'est-ce qu'une fable, comment c'est fabriqué, etc., etc. Donc, on est véritablement, si vous voulez, sur une logique de ce que je disais tout à l'heure, cet écrire d'abord, qui va lancer justement ce projet général. Oui ? Là, c'est en première, en classe de première, oui. Alors, comme vous le voyez, si vous avez lu ce premier texte, vous voyez que l'élève quand même maîtrise plutôt bien la notion de fable, puisque on voit effectivement qu'il il développe un apologue, un récit, et qu'il clôt cette fable par effectivement une forme de morale, croyant fuir sa plus grande ennemie, il rencontra la peur incarnée, donc il l'a retransformée, mais il reprend ici une morale qui lui était proposée. Donc on est ici dans un schéma où on voyait effectivement, général de la classe, cette volonté par exemple d'être dans une fable, mais on voyait bien que le modèle de la fable qui se développait, c'était le modèle de La Fontaine. Hein, et donc on avait un modèle de fable qui était un modèle versifié et lafontainien. Première proposition, et là cet écrit-là, si vous voulez, je pourrais estimer qu'il est de qualité, d'une certaine façon. Et que dans une logique habituelle de la réécriture, je me dirais, il n'y a pas besoin de faire de réécriture, puisque le texte est recevable, il serait même notable, évaluable, et il recevrait peut-être une note pas mauvaise. La proposition qui a été faite ensuite, justement, vous voyez, c'est le texte 2. Donc je vous invite à le lire. Le chien se promène aux abords d'une forêt, il aperçoit un lapin, il lui court après, il arrive par hasard dans un champ et rencontre une vache. Le chien a très peur, il court se réfugier dans la forêt, il tombe face à face avec un sanglier et le sanglier le charge. Le chien ne revient chez lui que tard dans la nuit, cruellement blessé. Cette fable montre que certaines personnes, croyant fuir un vague danger, se précipitent dans de plus grands. Vous voyez qu'on est passé d'un premier écrit, qui était ce premier état de la fable, à un second état. Entre les deux.
Pardon, excusez-moi, moi il me manque une connexion.
Oui. Et voilà, j'y arrive. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe entre les deux pour que l'élève soit parti de cette fable 1 et écrire la fable 2? On est parti en fait sur une lecture comparée d'une fable d'Ésope avec sa réécriture par La Fontaine. C'était La Perdrix et les coqs. Et donc, en fait, si vous voulez, j'ai intercalé dans les séances d'écriture, des phases de lecture et de découverte du modèle de la fable. Et donc, entre la fable 1 et la fable 2, il y a eu un travail de lecture en classe, de lecture littéraire, où on a travaillé sur une analyse comparée de la fable d'Ésope et de la fable de La Fontaine. Ceci pour tordre le cou d'une certaine façon, si vous voulez, sur la représentation que les élèves avaient de la fable, le seul modèle possible étant celui de La Fontaine. Et là, donc, on travaille sur l'origine de la fable avec Ésope pour montrer, en fait, que la fable, à ses origines, n'était pas nécessairement versifiée, qu'on est sur un modèle de la prose et que, d'une certaine façon, le schéma ici, si vous voulez, est cette réduction très forte avec une dimension très didactique de la fable, où il n'y a aucune forme d'ornement. Donc, d'une certaine façon, une fois qu'on avait lu les textes et comparé la fable d'Ésope et celle de La Fontaine, découvert d'une certaine façon les propriétés spécifiques de la fable d'Ésope, la demande qui était faite, c'était « Votre texte, vous le transformez, vous réécrivez votre fable pour en faire une fable ésopique, sur le modèle d'Ésope. » Et, si vous voulez, cette seule chose-là, d'une certaine façon, pour moi, était un vecteur assez dynamique de travail d'écriture, parce que tout d'un coup, on se situe dans le projet de l'élève. C'est-à-dire, il travaille, il transforme non pas un texte d'auteur, comme souvent ça peut se trouver, par exemple, j'aurais pu prendre la fable de La Fontaine, puis après j'aurais dit, cette fable-là, vous en faites une fable à la mode d'Ésope. À l'inverse, je propose à l'élève de travailler sur son propre texte. Et que donc, d'une certaine façon, j'institue dans la classe à la fois le projet de l'enseignant, qui est de faire découvrir la fable, de travailler dans la perspective de cet enseignement-là du genre, mais je propose aussi à l'élève, parallèlement, un projet d'écriture. C'est-à-dire que l'ensemble de ces quatre fables vont être réécrites, vont être écrites tout au long des quatre ou cinq semaines de cours où il va être question effectivement de travailler sur le genre de la fable. Donc, on est ici, si vous voulez, sur une proposition d'un nouveau modèle. Et le troisième texte, et c'est là où je vous invite à le lire, où il va leur être demandé, dans cette fable 3, de reprendre leur texte pour justement exploiter tout ce qui a été vu dans les lectures de la fable, puisqu'on avait travaillé sur un des livres, le livre 10 des fables de La Fontaine. Et donc, d'une certaine façon, si vous voulez, de passer à nouveau sur un modèle lafontainien, mais dans ce cas-là, d'une certaine façon, plus abouti. C'est-à-dire, où un des principes qui était important qu'on avait repéré dans l'écriture de la fable, c'était de voir comment La Fontaine s'immisçait dans la fable, comment d'une certaine façon la voix du fabuliste se faisait entendre dans le corps même de l'apologue. Et cela donne ceci, un chien naïf, fougueux, la folie dans les reins, l'œil menaçant et vif, poursuivait un lapin. Ne voyant pas plus loin que le bout de son nez, il s'arrêta juste devant un barbelé. Le coquin l'enjamba et vit une vache, une vieille, avec les taches sur les os. Quoique impuissante, elle fit peur à ce sot. Il s'enfuit plus rapide qu'un coup de hache et se coucha sitôt à entrer dans la forêt. Il reprit son souffle, pensant être vainqueur. La vue d'un gigantesque sanglier, bien en forme, lui fit encore plus peur. Et lorsqu'il revint meurtri par un grand combat, la vieille vache, vraiment, il la regretta. Et donc, on est, si vous voulez, sur une variante encore, donc cette variation de l'écriture, qui fait que, là où j'étais sensible, je trouvais ça intéressant, c'est que l'élève avait compris, d'une certaine façon, comment on pouvait jouer sur l'ironie. D'une certaine façon, c'est-à-dire comment le personnage, la dimension énonciative de la fable était importante, à savoir que ici, on voyait par exemple l'évaluation du chien progresser, du chien naïf, fougueux, devenir ensuite un coquin et finir par elle fit peur à ce sot. De voir effectivement comment on travaille sur la qualification du personnel de la fable chez La Fontaine, combien c'est important effectivement cette notion d'évaluation des personnages, et de voir par exemple aussi que chez La Fontaine, particulièrement dans la deuxième livraison, on voit le modèle de la fable se déstructurer et qu'on n'est plus nécessairement sur apologue puis morale, mais au contraire sur la morale qui s'immisce dans l'apologue, hein, et qu'il y a donc d'une certaine façon cette rupture des deux blocs, hein, comme on avait effectivement habituellement le présent à l'esprit, notamment dans les premières fables de La Fontaine, mais aussi dans ce modèle ésopique où on voit bien effectivement que l'apologue a simplement une fonction illustrative. Donc, travailler sur l'ornement, et là effectivement, peut-être cette écriture et ce travail a été rendu possible parce que progressivement, l'élève entre dans son projet, hein, et que donc c'est la durée aussi qui, me semble-t-il, est importante pour faire que l'élève, à un moment donné, s'intéresse parfois aussi à son propre travail. C'est-à-dire, c'est pas comme ça, il n'y a pas écrivez une fable et puis on est simplement dans une logique de validation et de notation, hein, qui évaluerait par exemple la capacité de l'élève à exploiter des propriétés formelles. Et donc, dernier temps du travail. Et là, on progressait dans les lectures, si vous voulez, où il y avait ce travail sur la parodie et le traitement, par exemple, la fortune d'une fable de la cigale et de la fourmi. Et de voir effectivement comment la cigale et la fourmi a connu effectivement un sort très riche, hein, et donc tout ce jeu d'intertextualité. Et ce travail sur la notion de parodie était reprise, si vous voulez, par les élèves. Et là, il leur était demandé justement de proposer une parodie de leur propre fable. Donc, on voit, si vous voulez, d'une certaine façon, une mise à distance, comme en parlait Bernadette tout à l'heure, mais une mise à distance et un jeu, introduire du ludique dans l'acquisition même d'aspects formels, parce qu'effectivement, c'était à la fois, il y avait des savoirs sur la fable qui étaient construits, mais l'ensemble des textes était véritablement intéressant parce que, les élèves, petit à petit, entrait dans cette conscience, effectivement, qu'il était possible de réécrire et de retravailler à partir d'un même thème, mais de travailler sur de la variation. Et que dans ce cas-là, travailler sur cette variation formelle pouvait aussi donner des sens différents. Donc, importance ici, si vous voulez, à partir de ce seul exemple, de voir ce que je disais tout à l'heure, comment l'écriture, ici, sert d'une certaine façon d'architecture à l'élaboration d'un projet de classe, de construction de savoir. Et que c'est à l'intérieur même de l'écriture qu'on va aussi, par exemple, s'interroger sur, tiens, comment je peux travailler sur la forme versifiée ? Comment je vais travailler sur la construction de la rime ? Et la fable 3 a été rendue possible parce que justement les élèves allaient lire les textes de La Fontaine et vraiment, enfin, si vous voulez, travailler dans cette... en termes de besoin, l'écriture à un moment donné et la lecture, plutôt, elle fait besoin, c'est-à-dire qu'il y a une situation problème, il faut que je travaille sur cette notion de modèle lafontainien, et donc je vais lire les textes de La Fontaine pour voir justement, et on va les travailler, on va les étudier, pour voir justement comment se passe ce travail de versification. Donc, on est, si vous voulez, sur un jeu d'interaction lecture-écriture qui ne se situe pas simplement sur le modèle on lit d'abord, et une fois qu'on a lu bien les textes, on va ensuite appliquer, mais on va tâcher au contraire de circuler là-dedans, de naviguer à travers justement ce projet d'écriture. Donc, projet d'écriture qui fait effectivement qu'il me semble là, on essaie de mettre en place voilà, une expérience de sujet scripteur, au sens où effectivement l'élève fait l'expérience d'un genre, et va multiplier justement ces expériences-là. Et c'est à ce moment-là que l'enseignant va aussi pouvoir évaluer le travail de l'élève. Non pas simplement évaluer un produit, c'est-à-dire « Ah, ton texte correspond bien à l'idée que tu dois te faire de la fable et ça correspond bien à un modèle », mais entre dans l'évaluation du travail de l'élève aussi l'implication de l'élève véritablement. C'est-à-dire que le produit final peut ne pas être exemplaire, il peut être encore très entaché d'erreurs ou avoir des déficits, ce qui est normal, on ne demande pas à l'élève de devenir tout d'un coup un fabuliste, mais on voit en tout cas ici la possibilité aussi d'évaluer un travail, une application, le fait que l'élève a tenté ou tâché de respecter une consigne et de transformer son texte. Donc dans l'évaluation globale, en fait, ce qui est pris en compte, c'est pas le texte final, mais c'est l'ensemble des textes. Et à partir de là, on a aussi une évaluation qui change complètement. Parce que je peux mesurer aussi le travail fourni par l'élève en disant, finalement, ben, tes textes sont pas remarquables, il y a pas mal d'erreurs encore, mais tu as tâché et tu as fait en sorte de respecter les consignes, tu as produit des textes, tu es rentré dans un processus d'écriture, et que dans ce cas-là, c'est aussi cet élément-là, parfois très subjectif, que je vais prendre en compte. Et pas simplement une évaluation d'un produit, mais aussi cette évaluation de l'engagement de l'élève dans l'écriture. Et comment justement évaluer cela, sinon qu'effectivement, me semble-t-il, en ayant aussi plusieurs états. Donc, on a ici une première proposition. Deuxième proposition, vous l'avez dans la page suivante. Alors, travail que j'ai appelé l'écriture de l'inventaire, qui se fonde sur une observation qu'avait fait Marie-Claude Panlou, qui avait fait un travail il y a une dizaine d'années sur les pratiques extrascolaires des collégiens, les pratiques d'écriture, et remarqué effectivement que ben, les élèves écrivaient beaucoup, mais écrivaient beaucoup notamment de listes. Et cette notion de liste m'a vraiment semblé là aussi intéressante pour engager un processus de réécriture. Il avait été proposé aux élèves, et là c'est dans le cadre non pas, vous voyez, de la fable du genre, mais du travail de la réflexion sur la poésie. Comment, et là aussi, donc de la même façon en collège comme en lycée, tiens, qu'est-ce que le genre de la poésie? Comment on va construire des propriétés formelles? Comment on va travailler sur cette identification de la poésie? Non pas en partant d'abord de « on va lire des poèmes », mais « on va écrire ». Et la première proposition que je leur avais faite, c'est voilà, jouer, eu, rêver, désirer. Et demander à des élèves de lycée de faire la liste des jouets de leur enfance. Quels sont les jouets que vous avez eus ou que vous auriez aimé avoir, ou quels sont les, voilà, hein, ou que vous avez rêvé. En tout cas, établir une succession de listes. Alors, autant vous dire que c'était assez amusant d'ailleurs, parce qu'au moins, enfin, tout d'un coup, on découvre des générations d'enfants et de jouets. Hein. Et donc, première proposition qui partait de cette seule consigne. Et le deuxième travail Donc on avait, si vous voulez, d'une certaine façon, un premier texte. Et j'en profite justement, je trouvais ça intéressant, c'est, je vous apporte, enfin, il y a actuellement à Paris, au Louvre, une exposition qui a été qui a été inaugurée il y a 15 jours, je crois, et c'est Umberto Eco qui est commissaire de l'exposition, et sur le vertige de la liste. Et donc là, il y a le bouquin qui est sorti, qui est assez remarquable. Et donc, il y a toute une réflexion d'Umberto Eco, assez passionnante, sur la notion de liste, et qui peut être aussi, justement, me semble-t-il, un travail, enfin, en tout cas, une base, un matériau pour engager l'élève dans l'écriture. Alors, à tous les niveaux, pour le coup. Oui, parce que, justement, je travaillais avec Claudine Garcia Deban dans le cadre d'une recherche formation, là, et demain, c'est ça, hein, vous travaillerez avec elle. Peut-être vous parlera-t-elle, justement, aussi du travail qu'elle a fait en primaire à partir de cette proposition que j'avais faite, moi, en lycée. Hein, et elle a repris en aménageant ce dispositif. Donc, on est sur un premier dispositif, si vous voulez, de la liste. Voici, poupée Lotus, peluche, roller, CD, livre, cassette, vélo, Playmobil, microscope. Une première liste et deuxième travail, à partir de cette liste, proposer aux élèves, voilà, une découverte de la poésie à travers ce recueil de Laurent Gaspard, Sol absolu, poésie contemporaine, qui m'avait intéressé parce qu'il proposait, si vous voulez, une approche de la poésie, mais du point de vue de la mise en espace. Non pas du point de vue de la poésie comme objet sonore, mais d'abord voir dans quelle mesure, d'une certaine façon, la mise en espace est aussi signifiante. Et donc, premier travail où je leur ai présenté au rétroprojecteur un ensemble de pages de cet auteur, et il leur était demandé simplement de reprendre, si vous voulez, les blocs, ou en tout cas les mises en espace possibles qui étaient là proposées par Laurent Gaspard. Et donc de voir qu'il y avait des mots qui prenaient toute la page, toute la page, donc il faut former blocs, des séparations entre l'article et le substantif, des énumérations qui formaient, voyez par exemple, des sortes d'escaliers, hein, donc tout un jeu comme ça, et donc de reproduire simplement cet ensemble de propositions pour leur signaler dans un premier temps justement que on peut jouer sur la mise en espace et que la liste elle va se distribuer différemment et que déjà là il y aura un travail, un engagement de l'élève dans son écrit, c'est-à-dire qu'il va faire une proposition non pas simplement verticale d'une liste, mais que sa mise en espace peut avoir une signification, c'est-à-dire quel mot tu rapproches avec l'un ou l'autre. Est-ce qu'il y a des jouets que tu vas mettre plus en évidence dans la mise en espace ou pas? Comment justement le seul fait de distribuer la liste dans la page indique de la part de l'élève une lecture, une interprétation de sa liste? Cette notion d'interprétation, elle n'est pas posée avant. C'est pas moi qui lui dis, il faut que tu interprètes ta liste en faisant... Non, c'est que d'une certaine façon, c'est quand on a commenté ensuite les mises en espace, où il était demandé à certains élèves de dire, tiens, est-ce que tu peux commenter ta mise en espace après? Quel choix tu as fait? Pourquoi tu as fait ça? Donc là, effectivement, on découvrait que certains... Alors, il y avait des couleurs, tout leur était possible. Hein, les caractères, la typographie, de jouer avec les mots et les listes pour voir justement que... on pouvait travailler sur presque un objet esthétique, hein, et que certains sont allés très loin dans la mise en page de leur liste, au sens où, d'une certaine façon, ils jouaient avec les couleurs, ils jouaient avec les mots, avec les formes typographiques, hein, et que véritablement, il y avait eu ce premier intérêt. Donc je vous donne, voyez par exemple, ici, une proposition de mise en espace de la liste, où on voit qu'il y avait des mots qui étaient plus gros que d'autres qui étaient distribués... Alors, bien sûr aussi, à un moment donné, c'est intéressant de voir que certains font intervenir la ponctuation. Et là aussi, tiens, le point d'exclamation est arrivé, alors même qu'il ne l'était pas initialement, bien sûr, dans les listes. Et que donc, dans ce cas-là, déjà, il y a du texte qui se met en place, hein, que le point d'exclamation oriente ma lecture, moi, quand je découvre là. Et donc, on est donc là, si vous voulez, sur... un premier état d'écriture. Pour moi, la première écrit, c'était déjà un premier état. Deuxième état, cette mise en espace de la page, de la liste, pardon. Et puis, troisième travail, c'était, voilà, maintenant que vous avez votre liste de mots, vous allez écrire un poème. Et, alors, j'oublie de dire, mais à la fois, ça va de soi, c'est que Il y avait une activité d'écriture qui était inaugurale, hein, de la même façon que pour la fable. On est d'abord sur écrire d'abord, donc on avait lancé cette réflexion sur la poésie. Et au fur et à mesure que les élèves écrivent, on travaille sur de la poésie, sur un corpus de textes poétiques, et on découvre effectivement la poésie sur la notion de modernité notamment, mais on travaille bien effectivement dans cette interaction lecture-écriture. Et que ces écrits-là interviennent, si vous voulez, dans le fil, bien sûr, dans le cours de la séquence. Et donc ici, vous voyez qu'il y avait cette première liste, poupée, lotus, peluche, roller, vélo, etc. Et puis, ça donne ceci. Désillusion. Donc on voit que l'élève était proposé ensuite d'introduire du sens, si vous voulez, et de raconter d'une certaine façon leur rapport à la liste. C'est-à-dire raconter, écrivez un poème où vous direz et vos sentiments, vos sensations, mais aussi les émotions, par exemple, que a pu lever ce souvenir, cette écriture de la remémoration. Et donc, désillusion, j'avais une poupée lotus, une de celles qu'on désire tant et une de celles que j'ai eues pourtant. Elle fut accompagnée par des déguisements, peluche, vélo, playmobil, roller, des rêves d'enfants qui déchaînaient les enchantements. Tellement de fois j'ai pu rêver au livre, cassette, microscope, au CD. Tellement de fois j'ai été déçu de croire au Père Noël. Donc, voilà. Vous voyez qu'il y avait donc dans ce cas-là un travail d'écriture où tout d'un coup c'était à eux de mettre en narration d'une certaine façon leur liste, hein, et donc de façon très variable. C'est-à-dire qu'ici vous aviez ce travail-là d'une autre élève qui a repris effectivement, vous voyez, la mise en espace, vous l'avez, hein, dans l'exemplier, je crois, je me trompe, hein, c'est ça, oui, voilà. Alors c'était vraiment quelle peluche, un punching ball, deux gants de boxe pleins de force, à héritière de deux grands frères. Alors vous voyez, tout d'un coup, le récit familial se met en place. Mais bien sûr, chacun libre. C'est là où je parlais d'initiative de l'élève. C'est-à-dire que on travaille sur de la poésie, on travaille sur l'acquisition de forme, on réfléchit effectivement à ce que signifie le texte poétique, mais à la fois l'élève a une initiative dans la mise en espace, dans le sens qu'il va porter effectivement à cette notion de liste. À héritière de deux grands frères, Beau Lego et Mille Playmobil. Et pour Juliette, c'était le nom de cet élève, et pour Juliette, des dinettes de marchande ou de cuisine, et les bouées, la pâte à modeler, le matériel pour bébé, la trousse de docteur était chère à mon cœur. Non, pas cette chose qui ose être rose, une poupée parlante et marchande et qui chante. Elle a peur, elle pleure, la petite sœur, mais grand frère arrivé, égal, jeu de pistolet et petite sœur consolée. Laser pour jouer par terre, à eau quand il fait chaud, un méchant qui ne casse pas, ça ne se perd pas. Jeu de main, jeu du monde, jeu de main, jeu du monde, un trampoline, hélas, mon rêve ultime. Donc, une série de propositions comme ça, si vous voulez, où quand on travaille sur la poésie, on voit les exercices qui sont proposés souvent dans les manuels, on dit que, justement, pour qu'à un moment donné, l'élève avance, fasse ces propositions-là, il faut qu'il y ait eu que s'inscrive l'écriture véritablement dans une temporalité, qu'il ose au-dessus d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il puisse s'aventurer. Et s'aventurer dans cette écriture, elle ne peut se faire, à mon sens, que justement où on a donné du temps au sujet, à l'élève, à rentrer effectivement dans cet engagement-là et dans ce plaisir qu'il va avoir peut-être à travailler la remémoration, hein, qui pourrait apparaître au début comme quelque chose de très contraignant et qui ensuite justement laisse cet espace-là à l'élève. Autre proposition, vous voyez, et qui était très différente, parce qu'en fonction des textes poétiques qui avaient été étudiés, en fonction des stéréotypes très forts qu'avaient les élèves, bien sûr, on voit des écrits très différents. Mais libre était à eux, totalement, effectivement, d'adopter la forme qu'ils voulaient poétique. Et c'était intéressant de voir que, autant on était allé dans la poésie moderne avec Gustave Laurent Gaspard au début, autant, par exemple, beaucoup d'élèves, après, sont revenus dans un format beaucoup plus classique. C'est-à-dire où la stéréotypie, justement, poétique était là fortement marquée par le retour à la rime, vous voyez, la recherche, justement, de travail strophique, hein, donc cette mise en espace était là, et bien sûr, là, par exemple, de voir que mon enfance avec ce nouvel imaginaire a laissé la place aux fluctuations boursières, tout d'un coup, il y a des propositions qui étaient faites tout à fait inédites, où on voit des élèves, là, comme Armand, qui n'était pas, justement, un élève très très investi du point de vue du français sur les, par exemple, les autres écrits institutionnels, hein, je pense à la dissertation ou au commentaire littéraire, et être capable de faire des choses assez étonnantes, enfin en tout cas où on voyait vraiment derrière un sujet pas simplement scolaire mais aussi quelqu'un qui a à dire quelque chose à partir de ce matériau poétique. Et Dernier, ah oui, vous l'avez dans le, vous voyez, dernier écrit, donc là on est sur cette mise en texte, et il y avait encore une ultime étape proposée aux élèves, et là par exemple vous avez ce texte de Juliette, qui donc fait face aux peluches. Plastique, polystyrène, polyester, matière morte, délaissée ou oubliée, pauvre et plein de poussière, je m'éloigne d'eux comme on s'éloigne d'une ancienne ère. Je pars, c'est pas je perds, vers le tumulte de la vie et ses soucis. Loin de moi, les personnages attachants, les histoires fantastiques, les batailles vivantes, l'aventure. L'imagination demeure, je suis Dieu, mes créatures m'obéissent, dans le souterrain, sur la maison, ne pars pas sans ton compagnon. À cheval, il faut chasser les apaches. Lutte sans pitié, coups de pied et même dents cassées. Pour de vrai, bien sûr, toute seule, le repos. J'ouvre un bar, je sers quelques clients. Un matin aventurier, un cow-boy solitaire, une poupée endimanchée. Je suis docteur, je soigne, je suis calme. Je chantonne tout doucement une berceuse à bébé qui s'endort silencieusement sur sa chaise. Il me reste des rêves et des souvenirs. Et donc, cette écriture, elle a pu être possible après cette consigne que je leur avais donnée. C'est à présent que vous avez travaillé sur cette mise en récit de la liste, vous allez travailler sur l'effacement du référent. C'est-à-dire, on avait fait un travail sur justement qu'est-ce que le langage poétique, qu'est-ce qu'effectivement le statut de la métaphore, quel est le rapport entre signifiant et signifié, et voir effectivement cette proposition qui leur était faite, c'est-à-dire de effacer le référent et de travailler sur le jeu de la périphrase, le jeu sur de la métaphore, de voir effectivement que pour désigner les peluches ou le punching ball, eh ben on va travailler sur l'image, par exemple, ici, de ce qui pouvait être la métonymie, c'est-à-dire plastique, polystyrène, polyester, matière morte, c'était la matière qui désignait les jouets. C'est-à-dire travailler avec cette situation problème nouvelle. Je dois parler de mes jouets sans jamais nommer les jouets. Voilà. C'est-à-dire, tu dois faire en sorte de réécrire ton texte, mais non pas, vous voyez, en utilisant des métaphores, c'est pas, la consigne ne fait pas figurer, vous utiliserez des métaphores et des périphrases. C'est comment, en fait, dans cette relation et dans cette perspective où je me situe, de penser l'écriture aussi comme dans sa réception, c'est-à-dire je pense à mon lecteur. Tu vas réécrire ton texte, mais ton lecteur ne devra pas percevoir tout de suite les jouets dont il est question. Voyez ? Donc d'une certaine façon, l'élève a trouvé des stratégies, et donc on est bien aussi dans une perspective là de l'écriture en termes de stratégie. Véritablement, et qui donc va convoquer un ensemble de compétences assez complexes de l'élève, et donc là on verra en fonction des niveaux de classe, en niveau de la maîtrise bien sûr d'écriture de l'élève, de voir jusqu'où il peut aller. Et donc on voit là aussi des élèves aller très loin dans cette proposition. Oui. Alors, non seulement des noms propres, par exemple, mais même des formes. Et là, par exemple, on est directement dans un... Il y a un intertexte qui était amusant, parce qu'on avait travaillé sur un poème de Laforgue qui faisait allusion à l'aventure, notamment dans l'Ouest américain, hein, et qui parlait d'évasion, etc. Et on, d'une certaine façon, l'élève, sans que ça lui ait demandé, mais à partir du corpus dont elle disposait, elle a pris ce format-là, si vous voulez, énonciatif notamment, avec tout cet engagement-là justement sur le jeu de la ponctuation, de des formes lyriques comme ça, de l'exaltation, qui reprenait d'une certaine façon le modèle de la Forgue, sans que ce modèle ait été imposé à elle, et donc là aussi aux élèves d'aller chercher les modèles qui leur semblaient les plus opératoires, les plus intéressants, c'est-à-dire dans l'ensemble du corpus poétique qui leur avait été soumis et sur lequel on avait travaillé. Donc, si vous voulez, de la même façon, on est parti de la liste, et puis on peut arriver comme ça, si vous voulez, à une succession de réécritures et de variations dans l'écriture. Mais le problème, c'est pas de dire « il faut que tu améliores ton texte », mais plutôt de dire « on va aller ailleurs ». C'est-à-dire d'éviter justement ce que moi j'avais toujours du mal en tant que prof à dire, et ce que vous me rendez compte toujours chaque fois, c'était ça coinçait, c'est-à-dire vous dites à un élève « ah bon, il faut que tu améliores ton texte parce qu'il n'est pas très bon », et puis l'élève vous répond « mais pour moi ça va très bien ». Enfin, où je vois pas où je pourrais améliorer, de toute façon j'y suis arrivé, et que donc effectivement il y a beaucoup de difficultés dans ce cas-là d'individualiser la réécriture. Enfin, en tout cas moi je ne suis jamais parvenu, où c'était un travail très 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 lourd et très fastidieux, si vous voulez, d'individualiser la réécriture, et que on n'est pas justement sur cette réduction de l'erreur, mais plutôt d'investigation, et donc plus dans une dynamique comme une sorte d'écriture qui prospecte et non pas qui corrige. Dans une écriture, justement, qui fonctionne sur l'essai, sur voilà, une série et une démultiplication des propositions. Donc, à partir de là, je disais tout à l'heure, effectivement, ce qui me semblait intéressant, c'est que petit à petit, ben, y a des élèves qui rentrent aussi dans le jeu de l'écriture. C'est-à-dire, ça ne leur apparaît plus nécessairement comme la notation, qui pour nous pose, enfin au collège, au lycée, tout de suite, on voit des élèves, ils ne pourront écrire que s'ils sont notés. C'est comment justement aussi travailler cette mise à distance, de se dire que l'écriture n'est pas soumise seulement à de la notation, hein, mais qu'elle va pouvoir effectivement cheminer dans une durée que l'on va justement pouvoir ensemble déterminer. Hein. Donc à la fois projet de l'élève, projet de l'enseignant. Et que bien souvent, il me semble que là où on a des difficultés, enfin parfois justement en classe, avec, c'est de voir à quel moment l'élève aussi se fait sien le projet qu'on lui propose. Hein, et comment dans ce cas-là, effectivement, on a peut-être plus de chances d'être dans cet investissement lorsqu'on va aller progressivement et qu'on ne va pas tout de suite signaler à l'élève qu'il a faux. Ou bien que justement là, il fait mauvaise route. Hein. Donc, succession sur ça. Alors, vous voyez, on a travaillé là avec un autre groupe de professeurs de collège, notamment. Je leur soumettais cette possibilité. On se disait, tiens, comment on va travailler? Et ça aussi, ça me semble intéressant du point de vue de l'écriture et sur la notion d'écriture fictionnelle, hein, en primaire, dès le primaire, bien sûr. Mais partir du matériau et partir de l'expérience de l'élève. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire faire en sorte, effectivement, que j'accueille l'expérience de l'élève en tant que sujet et dans la classe, et que je vais travailler avec ce qu'il sait, ce qu'il vit, mais que je ne vais pas nécessairement aussi en faire un objet d'exposition, mais qu'on va travailler aussi, et ça me semblait important en classe, de faire en sorte que, par exemple, le matériau biographique, il soit littérarisé d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on passe par des formes, par des modèles, et qu'on mette à distance, ou qu'on travaille aussi sur une succession d'écrans par rapport aux matériaux biographiques. Et là, exemple, comment partir, et ce serait une question moi qui a posé, c'est comment je pars d'un matériau biographique et comment je le fictionnalise? Comment je vais travailler sur du matériau, là, la liste, et comment j'écris et j'invente à partir de ce matériau-là? Et donc, dans ce cas-là, comment je quitte le territoire strict du biographique pour aller interroger des formes littéraires? Le récit, le conte, la poésie, la fable, enfin, sont autant d'éléments, autant de formes qui peuvent être investies par un matériau biographique, me semble-t-il. Et donc là, on avait fait une énumération possible. Si vous avez d'autres idées, c'est très bienvenu. Mais il y avait cette idée de mes lieux ou mes forfaits, mes héros, mes peurs, mes rêves, mes objets, mes répugnances, mes jeux, mes histoires, mes déceptions, mes découvertes. De travailler sur la liste, mais de voir qu'est-ce qui est listable, d'une certaine façon, avec des élèves, en fonction de leur expérience, en fonction du projet que je me fixe, et comment à partir de ça, eh ben, j'en fais un objet d'écriture. Et que je vais peut-être aller à la rencontre des textes pour voir, tiens, eh ben, comment on va mettre en compte mon histoire, comment on va mettre en poème mon matériau à moi. C'est-à-dire que vous voyez qu'on inverse d'une certaine façon le rapport entre lecture et écriture. Et que tout d'un coup, le rapport à la lecture va être un objet justement d'enquête. On va aller chercher des formes, on va essayer de réfléchir à, tiens, qu'est-ce qui serait intéressant pour travailler sur cette mise en forme de notre liste. Donc, on est bien, si vous voulez, sur une écriture qui va travailler entre une double conception, pourrait-on dire, la marque de l'expression de l'élève et de sa représentation, c'est-à-dire comment faire en sorte que l'écrire, c'est toujours et ne jamais que dire le moi et le monde, et donc comment accueillir cette initiative et l'expérience du sujet, mais aussi travailler justement sur la forme, sur la production comme travail sur le signifiant. Travailler sur des stéréotypies de genre, hein, comment on va travailler sur des régularités formelles, et que donc on va travailler sur le code sans jamais oublier aussi l'espace de l'élève. Ce qui, bien souvent, est parfois un peu compliqué, quoi. C'est-à-dire, soit on oublie l'élève et puis on travaille que sur des formes, et on impose d'une certaine façon la production d'un poème, la production d'un conte, mais travailler sur cette tension me semble intéressante. Et par ce jeu de la variation, il y a là, me semble-t-il, quelque chose de possible. Donc, j'en étais là et je vais terminer. Vous voyez, c'est le dernier texte faisait état d'une autre proposition. Je vais la commenter rapidement ici. Donc, c'est Émilie L. Vous voyez, c'est « Variation sur une scène romanesque ». Donc j'ai parlé de la poésie, j'ai parlé de la fable. Vous voyez que un autre travail, là, c'était en seconde, avait pu être mené. C'était sur l'écriture de la narration, travailler sur la scène romanesque, c'est-à-dire ouverture d'un récit, imaginer, et ce qui arrive souvent comme consigne d'écriture, vous imaginerez l'incipit de votre histoire. Donc proposition. Et ce qui voilà, j'étais parti dans cette proposition-là, et de façon normale, c'est-à-dire attendue et habituelle, on avait travaillé sur une succession de textes d'incipit romanesque. Donc, travail sur Jules Vallès, travail sur l'incipit de Madame Bovary, enfin voilà, sur un ensemble de textes très classiques pour travailler sur cette notion d'entrée dans le récit sur l'incipit. Et puis, j'avais proposé aux élèves, ben là, maintenant qu'on a travaillé sur l'incipit, qu'on a vu comment c'était fabriqué, ben vous allez écrire un incipit avec comme simple contrainte le fait que vous mettez en scène un enfant victime, parce qu'on avait travaillé sur cette thématique de l'enfant victime. Et ce qui s'est passé, et c'est le premier texte en rend compte, vous voyez, c'est en dépit du temps passé sur les lectures, et ben la production des élèves était généralement très éloignée de ce qu'était un incipit tel qu'on l'avait travaillé. C'est-à-dire, pour aller vite, ici l'élève parle de Léo, ça fait 12 ans que Léo est né, et en fait l'élève, elle fait presque un résumé de sa vie. C'est-à-dire, en l'espace de 10 lignes, vous avez le roman, quoi. C'est-à-dire, il n'y a plus d'histoire, et on n'est pas dans la scène, c'est-à-dire, où on va avoir une situation dramatique où un enfant est mis, qu'on découvre sous la forme d'un dialogue, d'une scène romanesque. Et donc, il y avait tout d'un coup, du point de vue de la notion même d'incipit et de scène romanesque, eh ben, une distance très grande entre le travail qu'on avait fait en lecture et les productions des élèves. C'est-à-dire que je m'étais complètement planté sur, voilà, ah oui, cette pensée un peu naïve de dire, ben, maintenant vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les propriétés, maintenant il vous suffit de produire, vous voyez, vous allez imiter les textes, imiter Flaubert, quoi, d'une certaine façon. Donc, lourde erreur, mais où je m'étais dit justement, elle était tellement grossière, cette erreur, et partagée par l'ensemble de la classe, que l'autre principe avait été, alors là vous voyez qu'on est plus sur effectivement, on va essayer de réduire l'erreur parce que ça va pas. Et donc l'ensemble des réécritures avait été proposé sur le thème suivant, vous allez faire en sorte de faire que votre lecteur soit intéressé par ce qui se passe, qui se pose des questions sur le personnage. C'est-à-dire comment penser l'écriture en termes de lecture. Et là aussi, ne pas être simplement sur le versant « j'ai besoin de propriétés formelles », mais l'écrit que je produis va être nécessairement lu par quelqu'un. Et que dans ce cas-là, comment j'intègre cette dimension de relation à un moment donné? Comment faire que l'élève intègre cette donnée-là dans son travail? C'est-à-dire qu'il pense à son destinataire. Donc, le travail qui avait été conduit là-dedans nous a amené justement à revoir, si vous voulez, cette dimension pragmatique de l'écriture et d'essayer de réduire, c'est-à-dire de faire que l'écrit expose une scène, c'est-à-dire un moment, et non pas une vie. Mais de travailler sur la scène romanesque, vous voyez qu'elle est à trois, ça fait « on frappa à la porte », il entendit avec une certaine résonance le grincement de la porte et les quelques mots de politesse que connaissait son grand-père. Intrigué, il sortit la tête de la cheminée qui était en train de ramonner. Il avait les mains et les habits tellement incrustés de suie qu'il n'imaginait même pas sa tête. Il s'accroupit en silence au bord de la cheminée et il regardait. Un homme apparut, c'était son instituteur. Stupéfait, il regardait l'homme qu'il admirait le plus. Grand par sa taille, mais aussi grand par sa générosité et son enthousiasme, vêtu de noir coiffé d'un chapeau qui laissait échapper quelques cheveux blancs, il parlait à son grand-père. Il fit des efforts pour essayer d'entendre la conversation. Lorsque son grand-père se retourna et l'appela, il était assis dans le coin de la cheminée et se fit réprimander. « Qu'est-ce que tu fais là, fainéant, espèce de carne? Va traire les vaches, rentre les brebis, occupe-toi des poules. Bon Dieu, tu es vraiment un moins que rien. » Il passa à côté de son instituteur, les yeux baissés, un peu honteux de ne pas lui avoir expliqué pourquoi il n'allait plus à l'école. Il regardait tellement le sol qu'il ne vit pas arriver le coup de pied sur ses fesses. « Dis bonjour, impoli, petit sauvage. » Il dit bonjour avec un air désespéré, lui sourit et lut dans le regard de l'instituteur des encouragements et de la compréhension. Donc, on voit, si vous voulez, entre l'état 1 et l'état 3, il y a eu tout un travail d'accompagnement dans la réécriture où il s'agissait effectivement, l'objectif c'est comment créer une empathie avec mon personnage. C'est-à-dire comment je travaille sur la notion de victime sans dire, sans exagérer la victimisation. Ce qui apparaîtrait dans l'état 1, je vous le laisse apparaître, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas parce que l'élève est roué de coups qu'il est plus intéressant. Il y avait une sorte d'exagération hein, dans la dimension de la victimisation qui n'intéressait pas nécessairement le lecteur, alors qu'il me semblait qu'elle était plus sensible, en tout cas cette empathie dans la mise en scène justement du personnage. Donc travailler sur cette dimension pragmatique, je crois là aussi, et ça c'est un travail qu'a fait beaucoup Catherine Tovron sur ses écrits justement, c'est comment travailler sur ce rapport à la réception des textes. Comment faire que l'élève soit un scripteur attentif à la réception de ces textes. Et donc, il y a tout un travail assez vraiment intéressant là, qui a été mené là-dessus. Et là, d'une certaine façon, moi, je me suis rendu compte que c'était quelque chose que l'élève ne pouvait pas prendre en compte tout de suite, dans un premier état. Ça marche pas. Il y a une surcharge, si vous voulez, d'exigences et de consignes, et que ça a des chances d'advenir à un moment donné quand des choses sont déjà posées. C'est-à-dire qu'il y a un premier état de la scène, il y a des situations, le référent est construit, le cadre générique est à peu près construit, mais que c'est peut-être justement dans la réécriture que cette prise en compte du lecteur a des chances d'advenir. Hein, et enfin, c'est un peu la réserve que j'aurais par rapport aux travaux de Catherine Tovron. Enfin, où justement, il semblait que c'était tout de suite posé. Et moi, ça me semble pas si évident que ça. Enfin, c'est quelque chose là aussi qui nécessite nécessairement un processus, hein, que c'est quelque chose qui doit s'engager, mais qui n'est pas un déjà là, qui est posé immédiatement. Donc. Exactement. Alors sur cette notion d'épaississement, on retrouve là-dessus. Donc voilà ce que je voulais, enfin comment je voulais terminer rapidement vous présenter cette proposition sur la variation. Voilà, avec cette dernière remarque, c'est qu'effectivement, autant moi, j'ai pu la conduire en lycée, enfin et donc travailler dans le cadre avec des élèves quand même assez experts, hein, enfin, qui maîtrisent l'écriture, mais autant des collègues là, dans le cadre de recherche formation, de groupes que j'animais, ont pu le mettre en place avec des élèves de 6e, hein, ou aussi auprès des PLC2 hein, de lettres, justement de travailler sur la poésie ou sur la fable de cette façon-là. Hein, et donc de pouvoir travailler, même, me semble-t-il, avec des scripteurs qui ne sont pas nécessairement experts ou qui n'ont pas une maîtrise totale du code, mais que ce code-là s'élabore et se construit dans ce travail de progression. J'arrête, il est midi.